La journée internationale des casques bleus est célébrée le 29 mai de chaque année. Investir dans la paix à travers le monde est le thème choisi pour 2017. À cette occasion, le ministre d'État et ministre de la Justice congolais a demandé au secrétaire général de l'ONU de doter la MONUSCO davantage des moyens en hommes et en matériel pour que celle-ci accomplisse sa mission en mettant fin aux différents conflits à travers la RDC. Alexis Tambwe Mwamba estime que lorsque ces différents conflits auront trouvé une solution, la MONUSCO aura ainsi accompli sa mission. Quelle analyse faire du travail des casques bleus de la MONUSCO en RDC? Tel est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Général Bernard Comis. Bonsoir mon général. Voilà, la réalisation va tenter de le retrouver. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu, honorable Juvenal Mounoubomoubi, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu et cadre de l'UNC, également membre de la commission défense et sécurité et rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le gouvernement congolais demande plus de moyens en hommes et en matériel pour la MONUSCO pour que celle-ci accomplisse sa mission. Déclaration du ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, à l'occasion de la célébration le 29 mai à Kinshasa de la journée internationale des casques bleus. On l'écoute au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Nous saluons les efforts qui ont été les vôtres. Nous savons que sans votre implication, aussi bien au cours de la première mission qui a permis de mettre fin à la sécession du Katanga qu'au cours de la mission actuelle, notre pays aurait peut-être perdu ses limites actuelles et aurait eu peut-être aujourd'hui une configuration tout à fait différente. Nous sommes conscients que vous avez déployé des efforts maximum et nous en sommes grés. En cette journée spéciale consacrée au casque bleu, que dire ? Nous disons que la mission serait incomplète si elle n'était pas accompagnée, en ce qui concerne notre pays, des moyens adéquats en hommes et en matériel pour pouvoir mettre fin au désordre que nous connaissons dans certaines parties du territoire et où vous êtes énormément impliqués. La quête du gouvernement est que le secrétaire général des Nations Unies et toute l'organisation puissent tenir compte qu'il faille à ce pays de nombreux moyens encore de la part de la MONUSCO en matériel et en hommes pour définitivement mettre fin à ce que nous connaissons aussi bien aujourd'hui dans la partie centrale que dans la partie orientale de notre pays. Lorsque ces différents conflits auront trouvé une solution, alors vous pourrez dire mission accomplie.
Général Bernard Comis, bonsoir.
Bonsoir monsieur, bonsoir à tous nos auditeurs.
Merci, vous êtes commandant adjoint des forces de la MONUSCO, général Comis. Sous quel signe avez-vous placé la commémoration de cette journée internationale des casques bleus en RDC?
Eh bien, nous avons placé cette journée sous le signe qui a été demandé par le secrétaire général, savoir investir dans la paix à travers le monde. Et nous avons eu quelques cérémonies qui se sont tenues pour manifester notre engagement et notre attachement à cet objectif auquel nous concourons tous, cérémonies à Kinshasa ou sur des postes dans les provinces où nous avons des forces qui sont déployées.
Alors, du point de vue de la MONUSCO, quel bilan dressez-vous du travail des casques bleus en RDC? Ça fait presque près de 20 ans que les Nations Unies accompagnent la RDC à travers la mission de maintien de la paix.
Il est vrai que nous entendons souvent dire que cette très longue présence n'a pas été accompagnée peut-être de tous les résultats qui pouvaient être escomptés. Sur le long terme, c'est peut-être une réflexion qui a du sens. sur des périodes parfois plus courtes, je dois dire que nous observons quand même des résultats régulièrement positifs, même s'il reste encore beaucoup à faire, j'en conviens. Je dirais que, pour prendre quelques exemples très précis, notre intervention très robuste, avec l'appui d'un certain nombre de pays de la SADC à travers la brigade d'intervention, a permis de mettre fin aux agissements du M23 et donc de réduire quasiment à néant la capacité de nuisance très forte que ce groupement armé a pu développer il y a quelques années ici dans cette région de Goma. Je dirais également que les groupes armés, qui restent nombreux dans l'est du pays, sont sous une pression constante de nos forces et également des forces armées de ce pays avec lesquelles nous avons un partenariat extrêmement fort. Je souhaite souligner à cet égard les progrès constants que nous observons dans le partenariat entre nos forces et les forces armées de ce pays. Nous avons également démontré à de très nombreuses reprises notre capacité à nous déployer rapidement ou à nous redéployer. J'ai en tête, et tout le monde le sait, notre déploiement dans la région du Kasaï, qui a commencé au mois de décembre dernier, et qui a permis, encore très récemment, d'installer des postes dans des régions reculées, dans la région au sud de Kananga, et dans d'autres régions, nous continuons de réfléchir à quel dispositif mettre en œuvre pour apporter la protection aux populations qui est le cœur de notre mandat. Je dirais également que nous sommes également parvenus à nous redéployer sur des endroits où nous avions des indices d'un risque imminent d'affrontement entre communautés. Et dans ce cadre-là, nous déployons ce que nous appelons des SCD. Pour faire simple, ce sont des détachements d'environ 40 hommes qui s'installent pour une durée nécessaire en vue d'éviter les affrontements. Et puis, je dirais aussi que, à de très nombreuses reprises, malheureusement, peut-être que nous n'en parlons pas assez, nous sommes un peu modestes ou humbles dans notre approche, à de très nombreuses reprises, nous sommes parvenus à empêcher ou à mettre fin à des désordres causés par des groupes armés, à sauver des gens, à les mettre à l'abri, à protéger des zones où des personnes s'étaient déplacées et où elles cherchaient à se mettre à l'abri. Voilà, donc je crois que ce bilan est tout à l'honneur des soldats qui servent au sein de la force, mais également à l'honneur de nos camarades congolais avec lesquels nous travaillons au quotidien. Et à l'heure où je vous parle, il y a une importante opération qui se déroule dans l'Est et où nous sommes très étroitement associés avec nos camarades congolais.
Général Comis, ce bilan, il est aussi humain. Est-ce qu'on peut avoir une idée des casquettes bleues qui ont perdu leur vie en RDC?
Écoutez, je dois vous dire très simplement que je n'ai pas le chiffre précis des soldats qui ont perdu la vie depuis le début de cette mission. Cela m'amènera peut-être à revoir mes fiches. Malheureusement, ce bilan est toujours trop lourd. Ce bilan est toujours trop lourd. Fût-il d'un seul soldat tué, fût-il d'un seul camarade congolais tué au combat, fût-il d'un seul civil tué dans des affrontements entre groupes d'armées, car les civils sont souvent, et trop souvent, les premières victimes, ce bilan reste toujours trop lourd.
Alors, Général Comis, il y a certains analystes qui estiment qu'il y aurait une certaine crise au sein des opérations de maintien de la paix à travers le monde de manière générale. Cela étant notamment dû à des mandats très étendus. Il y a quelques années, c'était des forces d'interposition, mais aujourd'hui, ces forces sont appelées à la construction de la paix, reconstruire les institutions, promouvoir des réformes économiques, etc. Et ils pensent que les mandats sont surdimensionnés. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Non, je ne partage pas. Je pense que la paix ne va pas qu'avec l'emploi de la force armée. La paix se construit chaque jour en mettant en œuvre toutes les ressources, toutes les énergies disponibles, et un mandat est un mandat qui n'est pas destiné uniquement à dire ce que doit faire la force ou ce que l'on attend de la force, même si, il est vrai, c'est souvent la partie la plus visible de l'iceberg. On croise au quotidien des véhicules avec des soldats en uniforme. Ils sont donc très faciles à identifier. Mais il y a à côté de nous un nombre très élevé de nos partenaires, je dirais, civils ou d'autres agences qui travaillent, peut-être davantage dans l'ombre, mais avec l'efficacité et le succès nécessaire et le courage aussi nécessaire, dans des endroits où la vie comporte des risques élevés souvent, eh bien c'est tout cet ensemble, je dirais, qui avance du même pas vers la construction d'un objectif qui est le rétablissement de la paix. Donc je pense que ces commentaires sont parfois un peu exagérés. C'est une approche vraiment globale qui doit être développée pour que tous les acteurs aient leur partition à jouer dans ce grand ensemble qui constitue une opération de maintien de la paix.
Merci, Général Bernard Comis. Je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Pour vous, quel sens donnez-vous à la commémoration de la Journée internationale des casques bleus célébrée le 29 mai de chaque année?
Oui, je voudrais commencer par saluer les deux co-débatteurs. Je tiens à préciser également que lorsque les Nations Unies ont résolu de soutenir la paix dans le monde, c'est à la suite des conflits qui s'y sont passés. Et donc pour moi, je considère que la RDC a beaucoup, beaucoup bénéficié des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous m'avez posé la question de dire le sens que je donne à ça, pour moi, c'est un sens de compassion des Nations Unies avec toutes les nations du monde qui connaissent des problèmes et qui traversent des conflits qui les déchirent.
Alors, en termes de bilan, vous avez suivi le général Comis dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, bien qu'il y ait encore du pain sur la planche. Et pour vous, quel bilan peut-on dresser du travail des casques bleus en RDC de façon concrète?
Oui, moi je pense que pour parler du bilan de la mission des Nations Unies en RDC, il faut les situer dans la durée. C'est pourquoi moi je préfère faire une analyse périodique partant des quatre périodes principales. Lorsqu'on voit la première période qui part de la création de la mission en 99, c'était en soutien à l'accord de Lusaka qui avait été signé par les belligérants. Et à cette époque, on sait très bien effectivement que la mission a joué un rôle dans les retraits des armées étrangères qui étaient présentes ici. Il y avait l'Ouganda, le Rwanda, la Namibie, l'Angola, le Zimbabwe, qui étaient soit invités par la MLC à l'époque, soit par la RCD, soit par la partie gouvernementale. Et là, c'était un rôle que tout le monde a salué. La deuxième période part de 2003 à 2006. On a vu effectivement la mission soutenir les premières élections après la transition, bien entendu, où des dizaines d'hélicoptères ont été mis à contribution. Et d'ailleurs, les rapports de la Commission électorale indépendante de l'époque avaient certifié que nuit était la mission des Nations Unies et bien les élections connaîtraient des problèmes. La troisième période part de 2006 à 2010. C'est là les grandes turbulences à l'est, au nord, au sud Kivu, à Ituri, avec les CNDP. On a vu effectivement la mission s'investir dans la formation de brigades et de brassage des différents groupes qui ont constitué l'armée. Et la troisième période, c'est effectivement celle qui part de 2010 en 2017, avec la transformation de la MONUC en MONUSCO, où les S signifiaient la stabilisation. Et le général l'a bien dit, effectivement, c'est au cours de cette période qu'on a vu la mission s'investir lors de la fin de la guerre contre les M23 à travers la brigade d'intervention. Mais on peut noter également quelques actions transversales sur toute la période, c'est notamment les actions en faveur de la démobilisation, du désarmement et même du rapatriement des combattants rwandais, burundais et même ougandais qui étaient présents chez nous. Tous les rapports dont je dispose me parlent de près de 15 000 combattants rwandais, ougandais et burundais qui ont été rapatriés dans leur pays grâce à l'intervention de la mission des Nations Unies, à côté bien sûr du travail qui a été réalisé par la Commission nationale pour les réfugiés qui a rapatrié pour la seule province Nord Kivu près de 130 000 réfugiés rwandais qui sont rentrés chez eux depuis 1999 jusqu'à ce jour. Donc sur ce plan-là, on note quand même une forte contribution de la mission des Nations Unies. Mais maintenant, après la création de la MONUSCO, il y a un nouveau terme qui est arrivé, à savoir la stabilisation, à savoir la protection des civils, à savoir l'implication avec un mandat robuste contre les groupes armés. La question qui reste posée, c'est de savoir est-ce que nous sommes arrivés réellement à la grande stabilité? Est-ce que nous sommes arrivés à mettre fin à tous les groupes armés? C'est cette question qui reste pendante, mais qui ne peut pas nous empêcher de reconnaître le travail qui a été réalisé par la mission des Nations Unies dans notre pays.
Alors, vous vous posez des questions, monsieur le gouverneur, en termes de faiblesse. Qu'est-ce que vous pouvez relever concernant la mission des Nations Unies au Congo?
Moi, je pense qu'en termes de faiblesses, ce que je peux relever, c'est que la mission des Nations Unies, bien qu'ayant aidé notre pays, elle s'est investie moins dans la formation, par exemple, de notre système de défense. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de la réforme du secteur de sécurité, mais on n'a pas vu effectivement la mission, par exemple, prendre des brigades entières, les former, les professionnaliser et militer pour leur équipement pour que au jour où la mission pourra se retirer, que nous ayons une armée déjà bien formée, équipée et professionnelle. Je vois que c'est cela la grande recommandation que j'aurais dû formuler à la mission pour dire, pour le temps qu'elle reste encore là, il est important qu'au lieu de nous amener des militaires dans la brigade pour accompagner les forces armées, qu'elles s'investissent dans la formation de l'armée, de la police, dans son équipement en appui, bien attendu au gouvernement congolais, pour justifier effectivement sa sortie un jour, et laissant derrière elle des unités formées, équipées et professionnelles.
Monsieur le gouverneur, il y a cet auditeur Gilbert Boaliboudougué de Bukavu, au sud Kivu, qui dit « Nul ne peut mettre le feu volontairement à sa maison et prétendre crier aux voisins pour y mettre fin. Moi, je proposerai par contre le retrait effectif de la MONUSCO, car elle me paraît budgétivore et sa mission n'est toujours pas claire pour nous, citoyens lambda, d'autant plus qu'elle est restée plus théorique que pratique et le problème va de mal en pis 15 ans après. Avez-vous l'impression, monsieur le gouverneur, en suivant cette réaction, que le Congolais moyen a connaissance de la mission des casques bleus en RDC?
Ça dépend de quel âge a ce Congolais moyen, parce que lorsque je vous ai fait cette analyse transversale qui part de 99 à aujourd'hui, je crois que tout celui qui ne savait pas ce que je viens de dire se rendra quand même compte de ce que la mission a pu faire dans notre pays. Et la question que chacun devrait se poser, c'est de savoir si pendant toutes ces périodes que je viens d'évoquer, il n'y avait pas cette mission, quelle serait devenue la République démocratique du Congo avec la présence de toutes ces armées africaines de 99 à 2003, avec l'absence des hélicoptères pour l'appui logistique aux premières élections de 2006, avec toutes les guerres que nous avons eues, CNDP, M23, FRPI dans l'Ituri, qu'est-ce que serait devenu le pays? Je crois que il est quand même de notre devoir de reconnaître les efforts, même si nous pouvons aujourd'hui arriver à dire, eh bien, la mission a réalisé son travail, elle peut déjà commencer à réfléchir par rapport à son retrait, d'ailleurs c'est le vœu à certains moments du gouvernement, mais ne pas reconnaître le travail qui a été fait serait quand même, de ma part, ingrat pour les Congolais qui peut-être ne connaissent pas l'histoire.
Merci, monsieur le gouverneur. Je vous redonne également la parole tout à l'heure, maître Juvenal Munubo Mubi. Vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu et cadre de l'UNC, membre de la commission défense et sécurité et rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez le travail abattu par les casques bleus en RDC?
Tout d'abord, je salue le gouverneur Paluku ainsi que le général Comins. Et rappeler que cette mission, comme vous l'avez dit, s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des casques bleus, l'occasion de rendre hommage à tous ceux-là, des hommes comme des femmes qui ont perdu la vie à travers le monde, et notamment au Congo, en République démocratique du Congo. Souvenez-vous de ces éléments tanzaniens qui ont perdu la vie dans les terrains des affrontements pour la protection civile. Alors, c'est un exercice important justement de dresser le bilan de la MONUSCO. Le général Comins a parlé d'un bilan positif, le gouverneur a salué ce bilan aussi. Mais avant de dresser le bilan de la MONUSCO, il faut tout d'abord, ou de cette opération de maintien de la paix, il faut d'abord considérer, il faut reconnaître. Et ça c'est un principe que tout Congolais ou même pas Congolais, tout auditeur doit comprendre, c'est que la responsabilité première de sécuriser la population incombe au gouvernement congolais, en République démocratique du Congo. C'est une tâche régalienne et que tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, ce n'est qu'un accompagnement, un appui. Il faut donc prendre ce que nous apportent les Nations Unies, New York, comme un complément à ce que nous devons faire ou que nous devrions faire. Si on dresse un tableau, effectivement, on trouvera qu'il y a des choses positives. L'appui à la réunification du pays, la RDC était presque scindée par 5 ans de guerre. La MONUSCO a apporté son appui, il n'y a pas eu que le cessez-le-feu. Il y a la chute du M23, qu'on peut considérer aussi comme un point positif. tout comme l'appui nécessaire aux premières élections de 2006, élections démocratiques, et même l'appui aux deuxièmes élections, même si les deuxièmes élections de 2011 n'ont pas été très bien organisées comme en 2006. Il y a les droits de l'homme, la question des droits de l'homme. Les bureaux congés de droits de l'homme, par exemple, nous alertent sur des cas de violation des droits de l'homme avec des rapports fournis. Et c'est que notre Commission nationale des droits de l'homme n'a pas encore commencé à réaliser. Il y a dans les villages parfois des cortèges où vous voyez des endroits où il n'y a pas l'armée, il n'y a pas la police. Et il y a eu des endroits où c'est la MONUSCO qui a assuré les cortèges ou l'accompagnement des gens pour aller au marché, les marchés organisés hebdomadairement. Mais il y a des choses, ça c'est le point positif. Mais sur le plan des choses qu'on devrait faire, mais jusque-là, ce ne sont pas encore réalisées. La MONUSCO, elle est là. C'est la plus grande mission de maintien de la paix, opération de maintien de la paix au monde. Mais on voit que les tueries continuent. Les tueries continuent à Beni, les tueries continuent au Kassai, 70 groupes armés. Les décomptes des 70 groupes armés réalisés par les groupes d'études sur le Congo, en tout cas, ça date d'il n'y a pas longtemps. Et alors, c'est que la situation n'est pas encore stabilisée, hein, même si c'est une mission de stabilisation. Mais je rappelle encore une fois, je ne suis pas en train de me contredire, la responsabilité première, elle incombe au gouvernement congolais. Et je me réjouis. Cette analyse un peu plus réaliste qu'avant, hein, du ministre Tambwe, hein, qui estime que il faut par contre augmenter l'appui en hommes et en moyens, en équipement pour la MONUSCO. Et vous voyez que ça contredit. Je comprends peut-être que le gouvernement est dans une logique évolutive un peu par rapport aux conceptions du départ, parce que lorsque vous suivez le point de vue de l'ancien ministre des Affaires étrangères, le point de vue du porte-parole du gouvernement, le point de vue du conseiller diplomatique du chef de l'État, c'était la réduction. Hic et nunc. Des effectifs drastiques, voilà les termes qui étaient utilisés. C'était ne pas tenir compte de la situation sur terrain, parce que les reconfigurations de la MONUSCO, du mandat de la MONUSCO, doivent tenir compte de l'évolution de la situation sur terrain. Quand on n'a pas encore une armée efficace pour assurer le contrôle du territoire, quand on a encore cette multitude de groupes armés, l'insécurité, même l'insécurité urbaine, on continue à tuer des gens à gauche, à droite, eh bien, la MONUSCO peut encore nous apporter son appui. Alors, il s'agit bien d'un appui.
Hein. Alors, honorable, j'ai posé la même question pratiquement au général Bernard Comis. Il y a certains analystes à travers le monde qui estiment que le fait que ces missions deviennent surdimensionnées ont des faiblesses qui s'expliquent notamment par la modification de la nature même des conflits. Maintenant, on a des guérillas, des combats asymétriques, des groupes armés, que les casques bleus ne seraient pas préparés à ce genre de combat.
Je ne dirais pas que les casques bleus ne sont pas préparés à ce genre de combat. Hein. Vous savez, il faut faire confiance. Il y a des nations qui ont des armées fortes et qui envoient leurs troupes. Mais je sais que ce n'est pas une action parfaite aussi. Elle est critiquable. Pourquoi ? Parce que maintes fois aussi on a eu à critiquer la MONUSCO. Alors si les FARDC ne sont pas intervenus à temps, pourquoi la MONUSCO aussi ne l'a pas fait ? Pourtant le mandat c'est la protection civile. Il y a eu des cas où, à l'absence des forces nationales, eh bien la MONUSCO, qui est la plus grande opération de maintien de la paix au monde, devrait intervenir. Mais vous savez, pour répondre directement à cette question, il y a un aspect qu'on n'a pas sensiblement amélioré. C'est les relations civilo-militaires. Les relations entre le contingent et la population locale. Tout comme les relations, ça on ne l'a pas encore dit depuis le début de cette émission, les relations même entre le gouvernement congolais et la mission des Nations Unies. Il y a des moments, on a connu des moments de relations tièdes. C'est le moment parce qu'on est en train de faire...
Un mariage en dents de scie.
Un mariage à dents de scie. Alors tout ça, ça n'a pas vraiment facilité l'efficacité ou l'efficience en termes de résultats. Donc, en termes de défis, c'est qu'il faut améliorer les relations entre les contingents et la population locale.
Merci, honorable. Général Bernard Comis, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Je ne connais aucun pays au monde où les casques bleus de l'ONU ont imposé la paix. Il est temps que cette organisation improductive et budgétivore soit dissoute. Je crois que la mission ou le travail des casques bleus de la MONUSCO en RDC semble être une mission impossible et très politisée. D'autant plus que la situation sécuritaire dans les pays, surtout au Kasaï récemment et dans l'Est, reste précaire, où on tue les paisibles citoyens innocents chaque jour.
Général Comis, que répondez-vous à cette réflexion?
Cette réflexion, je dirais, c'est un peu peut-être un cri du cœur de la part de notre auditeur, que l'on peut comprendre. Ce qu'il faut également que nos auditeurs comprennent bien, c'est que nous devons rapporter régulièrement la taille de notre force à la taille de ce pays et à la taille des enjeux que nous avons en face de nous chaque jour. Je comprends cette réaction lorsqu'il nous indique que notre mission paraît peut-être impuissante devant l'ampleur des défis que nous avons à relever chaque jour. Je me réfère simplement à la situation que nous avons aujourd'hui dans le Kasaï. Nous avons 450 hommes pour les provinces du Kasaï, les 5 provinces du Kasaï. 450 hommes, cela veut dire un homme pour 1000 km carrés. Donc c'est un chiffre qu'il faut garder en tête. On ne peut pas, avec ce ratio, avoir ne serait-ce que l'ambition de pouvoir régler tous les problèmes et, je dirais, apporter la sécurité partout. Donc c'est la raison pour laquelle la force vise à adapter ses efforts là où le besoin se fait le plus urgemment sentir. Et donc, nous n'aurons d'autres options que de toujours procéder à une analyse très précise des enjeux, des risques, de l'endroit où notre présence sera celle qui permettra le mieux d'apporter la stabilité, d'apporter la cessation des hostilités entre les différents groupes armés et surtout la protection des civils. Donc oui, je comprends la réaction de cet auditeur, mais je dois dire que nous faisons avec l'outil que nous avons et nous faisons en sorte de l'utiliser au mieux de ses capacités chaque jour.
Général Comis, il y a cette autre réaction d'Evariste de Bukavu qui dit la MONUSCO a beaucoup contribué pour le retour de la paix en RDC par des actions dont l'impact est inhibé par le fait que l'intervention a trop duré dans le temps. Le travail de maintien de la paix étant aussi complexe que la paix elle-même, la mission de la MONUSCO aurait dû être de courte durée, à l'instar d'Artemis en Ituri, car plus on y reste, plus on s'y perd, Général Comis.
C'est un débat qui n'est pas clos. Faut-il des missions de courte durée sur un spectre géographique extrêmement précis, ou faut-il des missions comme la nôtre sur un spectre géographique bien plus important? Nous couvrons tout l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons étendu nos bras, si je peux dire, jusque dans les provinces du Kasaï. Nous sommes également présents à Kinshasa. Une mission brève avec une force adaptée sur un secteur géographique limité et pour un responsable militaire, sans doute l'option toujours à privilégier. Mais il se trouve qu'ici, nous sommes face à un défi d'une toute autre nature. Nous devons apporter tout notre soutien, tout notre engagement de la frontière avec la RDC et avec le Soudan jusqu'aux frontières du Sud. Et jusque si nécessaire dans les provinces proches de Kinshasa. Donc c'est un vrai défi que nous avons. Aller vite, oui, on pourrait le faire. Mais je veux simplement évoquer que c'est un sujet que nous travaillons même à l'intérieur de notre force quotidiennement. Vous avez sans doute lu le mandat qui nous est confié. Dans ce mandat, dans cette dernière résolution qui a été signée, il est bien précisé que nous devons avoir des forces plus robustes, plus agiles, avec des capacités qui aujourd'hui seraient mieux adaptées à la forme de combat de contre-guérilla en jungle auquel nous avons à faire face avec nos camarades congolais. C'est tout l'objectif des travaux que nous menons actuellement avec New York, qui est chargé de prendre contact avec un certain nombre de pays, de manière à ce que ces capacités qui ont été demandées et qu'a souligné d'ailleurs dans son propos, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, ces capacités puissent être mises en œuvre le plus rapidement possible, car nous avons bien évidemment analysé les conditions dans lesquelles notre force s'est engagée depuis maintenant plusieurs années. Nous en avons tiré des leçons.
Merci.
Et le mandat tel qu'il est écrit prend en compte ces leçons. Donc voilà ce que je peux répondre à notre auditeur de Bukavu.
Merci, Général Comis. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a pour vous cette réflexion qui vient de Mbandaka.
Junior Bompong de Mbandaka, professeur de l'Équateur. De la Monique à la Monusco, déclin ou déclic. C'est la question qu'il faut pour se poser avant toute éventuelle analyse, car ni n'est pas ignorant que la présence des soldats onusiens se heurte à des difficultés tant internes qu'exogènes. Sur le plan national, je dirais que la Monusco paraît comme un témoin gênant vis-à-vis du gouvernement congolais, dont certains membres de l'exécutif national critiquent même sa présence. Et sur l'aspect extérieur, force est de souligner que la Monusco est tirée vers le bas dans sa mission, car plusieurs puissances occidentales veulent l'utiliser comme leur bouc émissaire afin de multiplier leur force d'influence dans l'Afrique centrale. Je dirais que le ministre doit comprendre que la sécurité et la paix est une charge de politique publique, qu'un État responsable ne doit pas se laisser faire en espérant que tout soit assuré par les autres États.
J'ajoute, monsieur le gouverneur, cette réaction de Delphin Moubili qui dit il y a peu, l'ex-ministre des Affaires étrangères était à la tribune des Nations Unies afin de réclamer que les troupes de la MONUSCO soient réduites sur le sol congolais. À en croire ses déclarations, la situation sécuritaire était sensiblement améliorée, que les FARDC étaient à même d'arriver à bout de quelques miliciens et groupes armés. Subitement, le ministre de la Justice demande l'augmentation des troupes afin d'étendre les foyers de tension sur le sol congolais. N'est-ce pas là vouloir une chose et son contraire, monsieur le gouverneur?
Non, moi, je pense que nous sommes là en face des autorités qui ont donné des points de vue qui ne sont pas tout à fait contradictoires. Je crois que dans la déclaration première de l'ex-ministre des Affaires étrangères, c'était le souci, effectivement, de voir la MONUSCO contribuer à la paix et commencer à fermer bagages pour rester derrière elle, effectivement, un État qui est en train de refaire sa santé sur tous les plans. La deuxième déclaration, effectivement, c'est au regard de l'évolution actuelle de la situation où le ministre dit, effectivement, que si on peut augmenter les effectifs aujourd'hui et les moyens pour essayer un peu de cibler les problèmes là où ils se trouvent, je crois que ce n'est pas contradictoire. C'est dans la même, dans les mêmes soucis de dire qu'on en finisse vite avec le reste des problèmes qu'il y a dans le pays pour qu'in fine la mission puisse se retirer. Tout ce que je sais, c'est que évaluer une mission des Nations Unies pose quand même de sérieux problèmes, parce que lorsqu'on voit la charte qui a créé les Nations Unies en 1945, c'est une charte qui n'a pas été beaucoup révisée et qu'elle a été mise en place dans un environnement où il n'y avait pas ce désordre international auquel on assiste aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'estime qu'il faudrait qu'on commence par là, par revisiter la charte des Nations Unies qui date de plus de 60 ans, pour qu'on l'adapte aux problèmes actuels, parce qu'il avait été créé à l'époque où il y avait des conflits entre les États dans un modèle classique de conflit. Aujourd'hui, les conflits ont évolué et nécessitent une thérapeutique de choc appropriée à l'environnement qui a changé actuellement.
Alors, monsieur le gouverneur, il faut réviser la charte des Nations Unies pour l'adapter aux problèmes actuels. Entre-temps, on sait que le gouvernement américain, à travers le président Trump, a fustigé l'inefficacité de certaines missions de maintien de la paix à travers le monde et est presque déterminé à effectuer des coupes budgétaires au niveau du département chargé des opérations de maintien de la paix. Est-ce que ça ne pourrait pas déranger certaines choses à l'avenir?
Oui, moi je pense que tous les points de vue qui vont dans le sens de la réduction des moyens, de l'évaluation de l'efficacité de la mission des Nations Unies, tous ces points de vue ont pour souci majeur de voir l'action des missions des Nations Unies à travers le monde améliorer leur performance. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'émissions qui sont restées. J'étais dans une émission où je vous ai parlé de Chypre, où la mission est là depuis 1963. Ça fait 54 ans que la mission est en Chypre. Il y a d'autres pays où, par exemple, le Rwanda, il y a eu l'entrée du FPR en 1994 avec la présence de la MINUAR à l'époque, la mission des Nations Unies au Rwanda. Vous avez vu au Burundi, par exemple, où le président a même refusé que la mission des Nations Unies puisse y s'y installer. Donc, ronronnements auxquels on assiste à travers le monde ont pour souci effectivement de pouvoir, à mon avis, arriver au changement de la charte des Nations Unies pour qu'on adapte ses missions actuelles à l'évolution de l'environnement international et au désordre qui se passe à travers les États. Je crois que c'est cela le souci de tout cela, y compris le président américain Trump, qui estime que on ne doit pas, par exemple, multiplier beaucoup de moyens financiers pour faire voler les hélicoptères ou faire défiler les chars sans que ces hélicoptères ou ces chars ne visent des objectifs précis, à savoir les Kasaï à les Kamanasapu, l'Ituri à telle menace, les Bas-Congo à telle autre menace, les Nord-Kivu à telle menace, que l'on focalise effectivement les peu de moyens qui doivent rester disponibles vers des problèmes réels et non pas vers des problèmes classiques ordinaires d'administration, de gestion et de stabilisation, qui sont des mots en fait qui n'ont pas encore eu de contenu pratique pour qu'on traduise la stabilisation et la consolidation de la paix dans des termes que la population sait voir concrètement. Voilà, je crois que c'est là le souci de tout ce qui parle des Nations Unies, de la réduction et des moyens qu'il faut focaliser sur des questions essentielles.
Merci Monsieur le Gouverneur. Honorable Juvenal Mounoubo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, Nord Kivu.
Je suis Kakule Mouteke de Butembo, au Nord Kivu. Certes, il y a beaucoup de réalisations depuis bientôt 20 ans que la MONUSCO est présente en RDC. Toutefois, beaucoup reste encore à faire. Et la MONUSCO, à la MONUSCO, elle renouvelle et réaménage chaque année son mandat dans l'objectif d'être plus efficace sur le terrain. En dépit de tout cela, celle-ci peine à matérialiser ses objectifs dans la restauration de la paix au pays. À mon avis, la RDC étant le pays qui regorge la gigantesque mission des Nations Unies au monde, avec environ 10 000 hommes, je pense qu'il n'est pas question de renforcer les effectifs, plutôt que de renforcer sa capacité.
Alors, honorable, renforcer la capacité de la MONUSCO, les capacités de la MONUSCO, pour vous, ça passerait notamment par quoi ?
Bon, il faut interroger évidemment ceux qui travaillent, parce que tout un département, le département de maintien de la paix, la capacité d'une armée, parce qu'au fait, même si les Nations Unies n'ont pas une armée à proprement parler, mais la MONUSCO, la branche militaire, agit comme une armée. Alors, accroître les capacités, ça veut dire quoi? Ça peut passer par les hommes, mais les hommes, ça ne suffit pas. C'est le même cas pour le Congo. Ce n'est pas puisqu'il y a beaucoup d'hommes en uniforme qu'on a une armée ou un système de sécurité efficace. Donc il y a les hommes, évidemment. Il faut que ce soit des hommes bien formés, bien rodés, qui s'adaptent aux milieux. Je parlais tantôt des relations civilo-militaires, connaissance du milieu, collaboration avec l'existant, le gouvernement congolais qui est en place. Tout ça, ce sont des aspects, il faut en tenir compte. Il y a les équipements adaptés aussi. Il y a les infrastructures aussi. Comment voulez-vous qu'une mission soit efficace sur terrain lorsque le réseau routier n'est pas efficace ?
Praticable.
Donc là, qu'est-ce qui est, la MONUSCO se rabat souvent. Il y a sa flotte héliportée, quoi, des hélicoptères, oui. Mais pour joindre un point à un autre où il y a de l'insécurité, où il y a des exactions, que ce soit au Kasaï ou au Kivu, ou au nord ex-Katanga, Katanganika, eh bien, il n'y a pas assez de routes, il n'y a pas de bonnes routes. Le pays n'est pas interconnecté, et ça c'est aussi une difficulté réelle. Raison pour laquelle, pour la stabilisation, il faut des projets de stabilisation. Et les projets de stabilisation, c'est notamment les routes. Il faut réhabiliter l'axe routier. Si on réhabilite par exemple l'axe routier Walikale et Masisi Goma, ça va aider énormément, ça va contribuer à sécuriser les territoires des Masisi. Ça va contribuer à sécuriser le territoire de Walikale. Donc on aura des dividendes et sur le plan sécuritaire, parce qu'on va déployer facilement la police, l'armée, mais des dividendes sur le plan économique aussi, parce que ça va stimuler l'agriculture. Les gens, ils seront encouragés parce qu'ils savent bien qu'ils vont évacuer le produit des champs. Alors, pourquoi ne pas miser sur des projets comme ça, à impact visible, appui aux routes, hein? Ça serait vraiment des axes importants. MONUSCO en collaboration avec le gouvernement, avec l'appui des partenaires, les PNUD et tout ça, il faut faire des actions dans ce sens-là.
Vous avez suivi le gouverneur Julien Paluku qui estime qu'il faudrait également songer à la révision de la charte des Nations Unies pour l'adapter aux problèmes actuels.
Oui, ça c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui et les scientifiques s'y attellent. Il y a beaucoup de travaux qui sont produits dans ce sens-là. Parce qu'il y a cette idée, par exemple, de voir comment les pays qui n'étaient pas pays membres permanents du Conseil de sécurité pourraient aussi un jour s'y retrouver. Il y a des réflexions dans ce sens-là qui continuent. Mais je crois que ces réflexions ne pourront pas changer certains principes bien connus. C'est que s'agissant des droits de l'homme, on affirme quand même que le droit international a une certaine suprématie, supériorité sur les souverainetés internes. Parce que s'il faut protéger les civils, assurer le respect des droits de l'homme, on ne peut pas évoquer des principes de souveraineté, ça serait du souverainisme. Et que voilà, c'est de l'ingérence. Il n'y a pas d'ingérence lorsqu'on veut bien protéger les droits humains. Donc c'est vrai, la charte devrait s'adapter à l'évolution du monde, parce que le monde n'est pas resté statique, c'est évident. Mais il y a des principes vraiment chers au droit international, inhérents au droit international, comme des principes en rapport avec la protection des droits humains et qui assurent une certaine suprématie des règles du droit international sur les droits internes, je ne crois pas que ces principes soient bousculés avec les temps qui courent.
Général Bernard Comis, il y a certains détracteurs des casques bleus qui estiment que ces soldats de la paix proviennent des pays pauvres, sous-équipés, souvent insuffisamment formés pour faire face aux nouveaux défis. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je pense qu'ils se trompent. Les pays qui contribuent au maintien de la paix ici au Congo savent pertinemment dans quel contexte ils vont s'engager et préalablement à leur déploiement, il y a tout un processus d'entraînement préalable qui est conduit dans leur pays avec un certain nombre d'informations qui leur sont données à partir d'ici, à partir de New York, de manière à ce qu'ils sachent pertinemment dans quel cadre ils vont évoluer, dans quel contexte ils vont s'engager. Alors il est peut-être vrai que des pays ont des procédures d'entraînement ou des capacités militaires différentes. Mais la réalité, c'est que tous ceux qui nous rejoignent ici mettent un point d'honneur à y arriver le mieux préparé possible. Alors, ça, c'est le premier point.
Alors, en guise de conclusion, Général Comis, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, juste un mot à cette population congolaise qui est en train de vous suivre en ce moment par rapport au travail des casques bleus, très brièvement.
Je dirais deux choses. Je dirais tout d'abord qu'il existe dans les zones où nous sommes déployés tout un système d'alerte, un réseau d'alerte qui est monté avec des personnels de l'ONU, avec des partenaires congolais, de manière à ce que dès que l'alerte est diffusée, dans la mesure où nous avons des positions proches, nous puissions réagir très rapidement. Donc je ne peux qu'encourager tous nos auditeurs et tous ceux qui aujourd'hui sont préoccupés par la sécurité dans la région où ils vivent, d'avoir recours à ce réseau d'alerte de manière à ce que nous arrivions Merci. Trop tôt et non pas trop tard comme parfois on nous le reproche.
Merci.
Ça c'est le premier point.
Et le deuxième, très
le deuxième
rapidement.
Et dernier point, si vous permettez, c'est juste de dire à tous ceux qui sont dans les groupes armés, arrêtez, déposez les armes, car nous ne cesserons de faire ce qu'il faut pour arrêter votre capacité de nuisance avec nos partenaires congolais. Donc Merci. Il est temps pour vous de poser les armes et de revenir à la vie normale.
Merci Général Comis. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, un mot en guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite de la mission des Nations Unies en RDC?
Comme la mission est venue en appui au gouvernement, je crois que les problèmes sont connus, l'Ituri, les Kasaï, les Nord et les Sud Kivu ont leurs problèmes, les groupes armés qui déstabilisent les pays sont connus, il faut éviter de parler plus des slogans, mais maintenant aujourd'hui passer des slogans en action concrète pour cibler les problèmes et une fois on les aura terminés, eh bien la mission peut dire j'ai accompli le travail qui m'a été demandé par la communauté internationale, je peux me retirer. Donc on passe des slogans vers des actes concrets ciblés Merci. Sur des problèmes qui sont connus à travers la République.
Honorable Mounoubo, juste un mot pour conclure.
L'actuelle résolution de Nations Unies, la 2348, insiste sur la tenue des élections cette année et donc la MONUSCO doit continuer à appuyer ses doigts d'ailleurs de continuer à donner son appui et le gouvernement doit saisir cette opportunité parce que l'alternance c'est une condition pour la stabilité et saisir aussi cette opportunité pour accélérer la réforme du secteur de sécurité pendant que la MONUSCO est là parce qu'un jour Merci. Elle partira et c'est la meilleure façon de préparer le départ de la MONUSCO.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.